Nous ouvrons nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Donc un peu après les psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe chapitre 26, Ésaïe 26, un magnifique cantique dont nous lisons les versets 9 et 10. Ésaïe 26, versets 9 et 10. Je lis au verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Nous allons vers le Nouveau Testament et vers la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Dont nous lisons les versets 5 à 11. 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous. Du moins, en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant toute chose. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Avant de considérer un deuxième portrait dans les Écritures pour nous laisser enseigner au sujet du pardon, nous devons, je l'annonçais hier, à la fin de notre étude, nous devons donner quelques précisions. Sur la base de ce principe fort appartenant à la pensée de Dieu, révélé dans sa parole, pas de pardon sans repentance, pas de réconciliation sans pardon. Et nous avons scruté deux chapitres de Samuel 13 et 14 pour voir défiler devant nous plusieurs personnages, dont Monsieur Narcisse, Absalom. Cet homme orgueilleux, très beau, brillant, mais aussi dévoré d'ambition et qui va énormément souffrir, et nous le comprenons, lorsqu'il va découvrir le drame vécu par sa sœur Tamar, que son demi-frère Amnon vient de déshonorer de la manière la plus terrible qui soit. Nous avons remarqué comment, devant la faiblesse royale de David, lui développe une haine profonde, mais qu'il va soigneusement dissimuler pendant 2 ans, tout en mettant au point la stratégie diabolique, au sein de laquelle d'ailleurs il se croit le bras de la justice de Dieu en action, puisque cette justice n'a pas été exécutée du haut du trône royal. Et c'est ainsi donc qu'au bout de 2 ans, il fait tuer, assassiner Amnon, s'enfuit auprès du grand-père maternel en Syrie. Et c'est alors qu'apparaît Joab. Joab, personnage important dans la vie de David, l'un de ses 3 neveux, réputés pour être des gens qui ont posé pas mal de problèmes à David. Joab, le général en chef à cette époque, et qui va remarquer au bout de 2 ans, et après que donc Absalom soit resté 3 années à Geshur, il va remarquer que les sentiments de David ont progressivement changé. À l'endroit d'Absalom, il a cessé de le poursuivre. Son cœur est porté pour Absalom, nous dit le début du chapitre 14, et donc il monte une sorte de mise en scène à l'oriental avec une femme habile qu'il déguise, tout simplement pour faire passer ce message qui nous semble si beau: Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Ce qui signifie, en décryptant cette parole, écoute, tu ne peux pas continuer comme cela à maintenir ton fils bien-aimé loin de toi et loin de la cour royale, fais-le revenir. Et David donc va céder, il va accepter ce retour, mais il va maintenir son fils Absalom loin de lui, il va lui demander de se retirer dans sa maison. Si bien que 2 années vont encore s'écouler, vous vous en souvenez, jusqu'à ce que finalement Absalom n'y tienne plus, il essaye absolument de faire craquer Joab pour qu'il retourne auprès du roi David pour plaider en sa faveur, mais Joab ne veut pas se mouiller davantage, il estime avoir fait ce qui était nécessaire, si bien que la fin justifiant les moyens dans la pensée de notre ami, entre guillemets, Absalom, celui-ci fait mettre le feu au champ de Joab pour que ce dernier vienne pour lui demander pourquoi il se conduit de cette manière. Et c'est là donc qu'il lui donne pour mandat d'aller vers David avec cette formule que je vous rappelle: pourquoi suis-je revenu de Geshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Et Joab rapporte cela au roi. Le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, se prosterna la face contre terre en sa présence, et le roi embrassa Absalom. Et nous avons vu que, au-delà de cette apparente générosité de cœur, que nous sommes tentés, humainement parlant, d'applaudir, en réalité, se cache une tragique faiblesse. Il ne s'agit pas d'amour, parce qu'au cœur aussi du programme de l'amour se cache cette dimension de nécessaire repentance. Et nous avons fortement souligné dans notre conclusion hier matin que Dieu est toujours animé d'un esprit de pardon, cela fait partie de la structure même de son être. Mais l'amour de Dieu est saint, l'amour de Dieu est juste, cet amour de Dieu est monté à son paroxysme, non seulement dans l'incarnation, dans cette venue sur terre de son Fils unique et bien-aimé, mais cet amour est allé à son sommet, à son zénith, dans la souffrance la plus extrême sur la croix de Golgotha, où entre ciel et terre, le Fils de Dieu a expié chacun de mes forfaits, m'a libéré, a fait de moi un esclave affranchi, un prisonnier arraché à l'ennemi, et m'a réconcilié avec le Père. Et donc cet amour de Dieu qui n'a pas escamoté, qui n'a pas contourné la croix, ne saurait escamoter la repentance. C'était là notre message. Et nous voulons donc pousser plus avant, surtout parce que, tout d'abord, il nous faut dire quelques mots de la repentance. La repentance, terme qui prête lieu actuellement à contestation de la part de certains bien-aimés, même dans les nouvelles versions, et vous savez qu'en ce moment ça bouge beaucoup dans le monde des versions bibliques. D'ailleurs, deux ou trois amis hier ont passé du temps à me poser des questions sur ce domaine, parce qu'il n'est pas sans importance. Et il nous faut être au clair sur ce qu'est la repentance, précisément parce que certaines versions ont choisi de traduire le mot grec du Nouveau Testament par l'expression « changer de vie ». Alors, tout en ayant beaucoup de respect pour ces bien-aimés qui font un travail remarquable dans le domaine de la traduction, je dois dire que, bien entendu, ce mot ne saurait me satisfaire. Parce que j'ai croisé, sans doute comme vous, des personnes qui, par exemple, étaient alcooliques et qui ont mis la vie de leur famille sans dessus-dessous, et c'est très peu dire. Et puis un jour, avec la merveilleuse complicité d'amis qui étaient intéressés à leur situation, ces personnes ont signé un engagement dans un organisme anti-alcoolique, sans forcément même se référer au Dieu de Jésus-Christ. Et finalement, elles sont devenues sobres. Et n'importe qui dans leur foyer pourrait dire que la vie du foyer a changé, la vie de ces personnes a changé. Pourtant, Christ n'est pas intervenu dans ce processus. C'est pourquoi il faut préciser. Et dans un sens, il est bon parfois qu'il y ait dans nos Bibles des mots qui, à quelque part, aient besoin d'être expliqués. Et qui intriguent. Et le mot repentance est un de ces mots qui intriguent et qui permet d'expliquer. Et il y a, en fait, dans le Nouveau Testament, trois mots. Trois mots qui s'inscrivent dans ce programme de la repentance selon la pensée de Dieu. Il y a tout d'abord un premier mot dans le texte grec qui est rendu dans le Nouveau Testament tantôt par se repentir, tantôt par regretter. Vous avez, pour prendre un seul exemple, ce mot dans Matthieu chapitre 21, dans une petite parabole donnée par Jésus au verset 29 à 32, déjà 28, que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, je suis dans Matthieu 21, verset 28, s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Alors là, nous avons le premier mot. Ce n'est pas le mot le plus classique dans le Nouveau Testament pour évoquer la repentance. Mais il est intéressant de constater, quand on analyse ce mot, que la dimension forte qui ressort de ce terme est celle du regret. Et nous aurions très bien pu traduire ce mot, et donc ce verset 29, autrement, il répondit « Je ne veux pas ». Ensuite, il regretta et il alla. Il y a dans toute véritable repentance, à quelque part et à un moment donné, une dimension de regret. Une dimension de regret. Le même mot grec va figurer, par exemple, dans 2 Corinthiens 7, 8, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8, et certaines versions, justement, là, l'ont rendu, c'est exactement le même mot, 2 Corinthiens 7, 8, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Vous avez peut-être entre les mains la version dite à la colombe, l'ancienne seconde révisée, puisqu'il y en a une nouvelle qui est sortie depuis très très peu de jours, n'est-ce pas? Et dans cette version à la colombe, il est écrit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas ». Vous voyez, c'est le même terme. Donc ça, c'est une première dimension de la repentance. Et puis alors, vous avez la dimension centrale, très importante, le verbe le plus souvent utilisé dans le texte original du Nouveau Testament. Par exemple, quand Jean-Baptiste commence son ministère, le premier mot qu'il dit, n'est-ce pas, c'est « repentez-vous ». Quand le Seigneur Jésus, ensuite, commence son ministère, les premiers mots qu'il dit, c'est « repentez-vous ». Ce n'est pas tout à fait le même terme que celui que nous venons de voir. C'est un terme qui donne une précision qui est très importante. Et c'est pour cela que, de ces trois mots, je le considère comme l'axe autour duquel tout tourne dans la repentance. C'est un mot qui est composé de deux parties. Une partie évoque le changement, et un changement radical, un changement profond. Et la deuxième partie évoque notre mentalité. C'est un terme, le deuxième, qui est très fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament, et il est à la base de nombreux mots qui appartiennent à sa famille. Et il évoque donc un changement dans notre intelligence, dans notre raisonnement, dans notre mentalité, dans notre évaluation des choses, dans tout ce domaine de notre pensée, dans tout ce qui appartient à ce que la Bible appelle près de 1000 fois le cœur. Le cœur qui n'est pas simplement et uniquement d'une part la pompe, hein, l'organe physique, mais qui n'est pas non plus uniquement le siège des émotions et de l'affectivité. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, hein, les chagrins de cœur, etc. Mais qui, dans les Écritures, va beaucoup plus profond, puisque le cœur est le cœur de la personnalité. Il est le quartier général de chacune de nos individualités. C'est ce qui est le plus profond en nous, là où se situent tous les leviers de commande de notre personnalité. Et dans ce cœur, il y a notamment ce « nous » qui fait partie du mot « repentance ». Toute la mentalité, tout le monde des raisonnements, des évaluations, des appréciations, tout cela, n'est-ce pas, qui est tellement important. Et la repentance, c'est une véritable révolution, un changement absolument radical jusque dans les racines de notre personne. Nous pensons différemment, nous apprécions différemment, nous raisonnons différemment. Il se produit une sorte de demi-tour radical dans notre manière de voir avec le regard de notre cœur. Et puis vous avez un troisième mot, dans lequel figure l'empreinte du second et du premier. C'est le mot qui, généralement, dans la plupart des versions, est rendu par l'expression « se convertir ». Il évoque un retournement, un changement d'orientation, un changement de direction, un changement de direction dans le comportement, dans la vie. Et bien entendu, ce changement de direction, ce changement de comportement vient de ce que là-dedans, quelque chose s'est passé, qui a été extrêmement profond. Ce que j'adorais jadis, je le brûle maintenant. Ce que j'haïssais jadis, je l'aime maintenant. Dieu est intervenu par le Saint-Esprit dans ma vie. Et il a effectué ce changement en profondeur. Alors souvenons-nous bien de cela, de manière à ne pas appauvrir. Et l'ennemi aime que nous appauvrissions la pensée de Dieu, ou que parfois nous la compliquions. Ça l'arrange, n'est-ce pas ? Alors nous voulons nous tenir fermement sur le terrain des Écritures et nous avançons avec cette triple pensée, le regret, le renouvellement de l'attitude mentale et le changement de direction de la vie. Un de mes anciens professeurs à l'Institut biblique Emmaüs, maintenant à la retraite, a écrit un jour un remarquable article pour définir la repentance, et il le faisait aussi avec toute sa piété, tout son cœur et sa connaissance des Écritures, et il écrivait notamment ceci: il s'agit d'une repentance de la vie, du cœur de la vie, de toute la vie et pour toute la vie. Je le redis, n'est-ce pas, une repentance de la vie, du cœur de la vie, de toute la vie et pour toute la vie. Voilà ce qu'est la repentance. C'était la première remarque qui est essentielle, puisque il n'y a pas de pardon sans repentance. La deuxième sera pour mettre en évidence un de ces passages des Écritures que nous aimons énormément, quoique il nous gêne aux entournures, pour ne pas dire plus, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18, Évangile selon Matthieu au chapitre 18, ce grand chapitre dans lequel le Seigneur Jésus va poser six principes concernant le fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Vous savez que dans les Évangiles, nous avons très peu d'enseignements qui visent de manière directe l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr qu'il vise l'Église, mais elle n'est pas mentionnée comme telle. Mais ici, le Seigneur Jésus nous a laissé un chapitre complet, que l'on retrouve d'ailleurs ici et là dans les autres Évangiles, pour traiter de toutes ces questions, notamment relationnelles, dans l'Église de Jésus-Christ. Et au verset 21, que nous ne devrions d'ailleurs jamais dissocier des versets précédents, nous aurons peut-être l'occasion de le dire, c'est important, et c'est Pierre qui intervient. Pierre qui s'approche de lui, et pardon de le dire, c'est pas dans le texte, moi j'ai l'impression qu'il s'est approché de Jésus à quelque part en bombant le torse. Pourquoi ? Parce que il lui pose une question de manière assez bizarre. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Jusque-là, on comprend. Hein. D'autant plus qu'on sait qu'il y a eu pas mal de bricoles dans les relations entre cette équipe, hein, entre les membres de cette équipe. Ils avaient de tels caractères, on peut comprendre. Peut-être venait-il d'ailleurs de s'accrocher avec l'un d'entre eux. Hein. On a des atomes crochus et des personnes avec lesquelles on accroche moins bien. Mais là où il bombe le torse, c'est quand il donne la réponse qui lui semble la plus noble, la plus élevée, la plus spirituelle qu'il soit, puisqu'il dit « sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Pourquoi 7 fois ? D'autant plus que Pierre avait connu l'enseignement des rabbins, il savait ce que les rabbins de son époque disaient. Eux, depuis bien longtemps, les rabbins enseignaient en s'appuyant sur des textes de l'Ancien Testament, du livre de Job, ou encore sur les premiers chapitres du prophète Amos, ou à 8 reprises, vous avez un refrain qui revient pour 3 crimes, voire 4 de telle peuplade, et puis ensuite d'Israël, etc. Le châtiment qui va tomber. Les rabbins, s'appuyant sur ces textes, disaient, vous voyez, nous avons des preuves par l'Ancien Testament, par les écrits d'Amos, par le livre de Job, que Dieu accepte vraiment, et ça c'est le maximum, de monter jusqu'à 3 pour pardonner à quelqu'un qui commet à nouveau, n'est-ce pas, la même faute. Ça, c'était l'enseignement des rabbins. Pierre connaissait Jésus. Il connaissait la générosité du cœur de Jésus. Il vivait à ses côtés. Et il savait très bien que Jésus allait plus loin que les rabbins. Et 7 étant un chiffre symbolique dans les Écritures, de toute évidence, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, je crois qu'il y a 54 mentions de 7 simplement dans l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Chiffre de plénitude, chiffre d'accomplissement, chiffre symbole de perfection, de totalité, n'est-ce pas ? Je dis, si je dis ça, je gagne à tous les coups. Je suis largement au-dessus des rabbins, n'est-ce pas ? Et sans doute à sa grande surprise, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois, je lis ma Bible à la Suisse, simplement. C'est-à-dire que dans l'arithmétique divine du pardon, il n'y a pas de calcul mental. Dieu veut que nous soyons animés d'un esprit de pardon. Ce n'est pas une question de calcul. Nous sommes animés soit de l'esprit de l'émec, au début du livre de la Genèse, n'est-ce pas, qui veut venger un crime, et lui aussi il s'est multiplié dans ce domaine. Nous avons le choix entre l'esprit de l'émec et l'Esprit du Seigneur. Alors nous aimons ce texte, même si à quelque part il nous dérange, nous met mal à l'aise. Mais nous oublions qu'il existe dans les Écritures un deuxième texte, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, qui est un texte qui appartient au même enseignement de Jésus. Luc 17, il y a au début de Luc 17 des références à Matthieu 18 qui montrent que tout cela forme un seul enseignement du Seigneur. Luc 17, Jésus, verset 1er, dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin, qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Et cela, ça correspond à Matthieu 18, verset 6 à 9. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, et là, le verbe utilisé, la manière dont il est conjugué dans le texte grec, laisse entendre qu'il s'agit d'une chute. Hein. Il ne s'agit pas d'une manière de pécher semblable à notre respiration, hein, et d'une pratique habituelle du matin au soir, du soir au matin, qui indiquerait alors que là, on pourrait se poser des questions sur la légitimité de la nouvelle naissance. Si je vis dans une pratique permanente du matin au soir, que je n'ai pas rompu, que le péché n'est pas devenu quelque chose d'accidentel, alors on peut se poser des questions. Alors ici, les questions du péché accident, même si on peut avoir dans la même journée plusieurs collisions. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois ils reviennent à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Alors, je suis frappé de voir combien on a privilégié le texte de Matthieu 18 et laissé curieusement sous le boisseau le texte de Luc 17. Alors que tout cela va ensemble, n'est-ce pas? Et si le premier nous montre ce qu'est l'esprit de pardon, le second donne un relief particulier à l'importance de la repentance. Et nous n'avons pas le droit de privilégier l'un par rapport à l'autre. Les deux sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois à la fois être préoccupé de cette animation d'un esprit de pardon et en même temps réaliser dans ma propre vie d'abord l'importance d'une repentance pour obtenir le pardon paternel de Dieu. J'ai le pardon que je dirais juridique, de manière définitive, depuis l'instant même où je suis venu plaider coupable pour la première fois au pied de la croix, c'est fait à jamais pour l'éternité, mais vous le savez, nous avons besoin de ce pardon paternel du Père, mais sur la base aussi de la repentance, qui va ensuite se traduire au plan relationnel, au plan horizontal, comme le dit ce texte, si c'est dans nos relations avec autrui que nous sommes coupables. Alors après avoir dit cela, il faut aussitôt souligner l'importance de ne pas tomber pour autant dans la dureté. Il est des croyants qui, s'inspirant de Matthieu 18, sont de véritables machines à pardon, mais n'ont plus la moindre colonne vertébrale dans le domaine de l'amour. Parce qu'ils disent, il ne faut pas juger, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il faut que je sois d'une générosité de cœur absolument extraordinaire, alors on peut faire les choses les plus abominables, je dois pardonner. Et puis il y a de l'autre côté ceux qui s'appuient sur Luc 17 ou d'autres passages des Écritures pour dire, je ne pardonnerai que si la personne se repent, et je veux de surcroît être absolument certain de sa repentance, et qui deviennent d'une dureté à l'endroit de toute personne qui ose leur écraser un orteil. Alors il est beau d'avoir ces deux passages dans les Écritures. Et en fait, de ne pas avoir dans la Bible une sorte de catalogue détaillé qui nous indique dans quel cas nous allons pardonner sans exiger systématiquement que l'autre vienne vers nous en nous disant « Je te demande pardon ». Et dans quel cas, tout en étant animé d'un esprit de pardon, nous devrons dire peut-être avec les larmes aux yeux, et avec beaucoup d'amour, mais avec cet amour qui a une colonne vertébrale, tu sais mon frère, ma sœur, je t'aime profondément, et je suis vraiment animé vis-à-vis de toi du désir de te pardonner, mais dans cette situation, je ne manifesterai pas un véritable amour si simplement je te disais comme ça je te pardonne. Je te rendrai un très mauvais service. Et voyez-vous, dans ce domaine, c'est la qualité de notre intimité avec Dieu qui va jouer un rôle énorme. Parce que c'est Dieu qui va, dans certaines situations, nous dire, tu sais, dans cette situation, il faut résister à cette personne. Parce que si tu ne résistes pas, tu vas la perdre. Si tu lui résistes, peut-être que cette résistance d'amour va couvrir un jour une multitude de péchés. Le pardon va pouvoir se manifester parce que tu auras manifesté la fermeté dans l'amour. Vous savez, c'est la même chose dans l'éducation de nos enfants. Nous avons essayé, mais toujours prudent, hein, d'éduquer nos enfants sur la base très importante du pardon. Et donc de la nécessité de la repentance. Et il est arrivé, bien sûr, que nos enfants fassent ce que nous, nous faisons dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. C'est-à-dire que, sachant que nous avions un cœur prêt à pardonner, ils multipliaient les mêmes fautes et puis venaient nous dire « Pardon, papa !» Jusqu'au moment où le cœur meurtri, papa est obligé de dire, tu sais, chérie, ça ne va pas, ça. Je souffre pour toi dans cette situation. Mon cœur déborde d'amour pour toi. Mais à quelque part, il y a un bouchon sur la citerne. Hein? J'aimerais tellement te mettre sur mes genoux, te caresser, te dire des mots pleins d'affection. J'aimerais vraiment te donner ce qui est le meilleur de mon cœur de père, le plus doux pour toi. Mais dans cette situation, je ne le peux pas. Parce que tu me considères comme une machine à pardonner. Et tu ne changes pas. Tu recommences dans les 5 minutes exactement la même chose, tu ne bouges pas. Alors, désolé pour toi. Mais nos relations ne sont pas ce qu'elles devraient être pour le moment. Et réfléchis. Et on voit dans le cœur de nos enfants tout ce travail qui commence à se faire. L'insécurité et l'angoisse dans laquelle ils se retrouvent. Les questions qu'ils commencent à se poser. Et ils réalisent que nous les aimons. Et puis il arrive un moment. Ou peut-être même parfois, après une sorte de tête-à-tête, où il résiste pendant un certain temps, il arrive le moment où l'enfant accepte de cesser de raidir son cou. Et puis il vient très simplement dire vraiment, pardon papa, pardon maman. Et on comprend le message. Et alors on peut ainsi apprendre à l'enfant à grandir sur cette base saine du pardon et de la repentance. Il y a là quelque chose d'absolument fondamental dans nos vies, dans nos familles, dans l'éducation de nos enfants. Alors, la repentance ne s'exige pas par esprit de rancune, mais par amour pour l'offenseur, pour le bien de l'offenseur, non pas pour lui prouver que nous avons raison, mais parce que c'est une nécessité absolue pour sa propre sauvegarde spirituelle, voire parfois physique. Nous l'avons dit, Absalom en est mort. Et j'ai bien peur que parfois dans nos églises, à cause de ce refus de l'équilibre qui nécessite une étroite communion avec Dieu, nous ayons une part de responsabilité dans certains effondrements spirituels où nous nous sommes dérobés devant la nécessité de résister à l'autre. Par amour pour lui, par fidélité au Seigneur, pour son bien, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ceci dit, parce que le sujet est délicat, j'aimerais vous citer ce prince des prédicateurs, Spurgeon, parce qu'il a souvent écrit des choses de manière tellement imagée et compréhensible. Et il écrit notamment ceci, « Ne voyons pas des offenses où il n'y en a pas. » Souvent, un homme a été offensé par un autre sans aucune raison. Une personne a dit de quelqu'un d'autre qui passait dans la rue, « Il ne m'a même pas salué. Il est trop fier pour me saluer parce que je suis pauvre. » Or, cet ami bien-aimé qui fut ainsi blâmé ne pouvait pas le voir plus loin que sa main car il était myope. Un autre a été critiqué pour ne pas avoir entendu, mais il était sourd. Un autre pour ne pas avoir donné de poignée de main alors que son bras était paralysé. N'imaginez pas des offenses où il n'y en a pas. Et il est des caractères, des tempéraments qui, pour des raisons d'éducation et autres, sont extrêmement pointilleux, d'une maniaquerie envers les fautes des autres. Si bien qu'ils finissent par en voir partout, même là où il n'y en a pas. Attention, n'est-ce pas, à cet esprit de critique tellement facile, où nous sommes prêts à tomber à bras raccourcis sur l'autre, n'est-ce pas, simplement parce qu'il a fait un petit faux pas. Ceci est important dans la vie de famille, comme ceci est important dans l'Église. Nous n'avons pas le même type de sévérité vis-à-vis de l'enfant de 2 ans que vis-à-vis de l'enfant de 12 ans lorsqu'ils font une faute qui est quasi identique. Je ne vais pas reprendre mon enfant de 3 ans s'il prononce un mot de travers, alors que je vais peut-être devoir reprendre l'enfant de 12 ans pour ce même mot prononcé de travers, parce que des années se sont écoulées, qu'il a appris, qu'il a été enseigné, qu'il subit peut-être aussi des influences extérieures, etc., n'est-ce pas ? Dans nos relations avec les nôtres, nous apprenons dans une bonne éducation à développer un doigté relationnel qui fait que notre manière de réagir est différente d'un enfant à l'autre en fonction de sa maturité, de son âge, de ses capacités, etc., n'est-ce pas ? Dans l'Église, il en est de même. L'Église est une famille, avec des petits-enfants, avec des adolescents, avec des pères et des mères. Il y a de grandes différences entre les uns et les autres. Et nous pouvons être parfois d'une extrême sévérité avec celui qui est encore un petit bébé en Christ, dans un domaine où Dieu est beaucoup moins sévère que nous avec lui. Rendez-vous compte si Dieu commençait en cet instant à nous montrer tout ce que nous sommes, comme ça, d'un instant à l'autre. Eh bien, mes amis, il y aurait un enterrement généralisé dans les 2-3 jours qui suivent, dans chacune des communes, des familles et des églises que nous fréquentons. Ce qui est extraordinaire, c'est ce doigté fantastique de Dieu, cette pédagogie divine d'un Dieu d'amour, qui nous révèle peu à peu, au fur et à mesure de notre croissance, de manière à ce que ce soit supportable. Comme un bon médecin qui va découvrir un drame en voyant son patient, l'examinant sous toutes ses coutures, il va avoir un diagnostic extrêmement lourd, mais s'il est un bon médecin, un bon pédagogue, il ne va pas tout de go révéler la totalité du problème avec toutes ses implications, etc., parce qu'il risque de tuer le patient qui est là, hein, en train de l'écouter. Mais il va voir quel est le premier élément dominant qui doit être partagé, qui est peut-être essentiel, mais il va avoir une approche qui tienne compte de la fragilité, de l'état de son patient. Vous savez, je comprends pourquoi David, après le dénombrement orgueilleux coupable, quand Dieu lui a proposé le choix entre plusieurs châtiments, a dit, oh, la seule chose, Seigneur, c'est que je tombe entre tes mains. Je préfère tomber entre tes mains qu'entre les mains des hommes. Et combien de fois il m'est arrivé de le dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Dieu est juste dans son approche de nos situations à chacun. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi, n'est-ce pas ? dans ce domaine. Ne voyons pas des fautes là où il n'y en a pas. Ça vous est déjà arrivé le dimanche matin de voir quelqu'un qui, à la fin du culte, quitte tout le monde en TGV. Voilà, telle sœur qui traverse la salle à une vitesse digne d'une étoile filante. Sans saluer personne, il y a même une main qui se tend au passage qu'elle ne prend pas, n'est-ce pas? Elle file tout droit. Lésée dans son geste d'amour de se tourner vers quelqu'un d'autre et de lui dire, mais dis, tu as vu? Qu'est-ce qui est arrivé à la sœur Augustine, là? On entre à la maison, on décroche le téléphone. Allô? Oh, sœur Intel, qu'est-ce qui arrive à notre sœur Augustine? Elle ne m'a pas saluée ce matin, moi je la trouve bien fière. Et l'autre, à l'autre bout du fil, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a 25 ans en arrière, elle m'a fait le même coup. Hein? Et avant que la journée ne soit terminée, presque toute l'église sait par le téléphone que ce matin-là, une certaine Madame TGV a gravement péché contre la communion fraternelle et l'amour. Personne, bien entendu, n'aura pensé décrocher le téléphone pour téléphoner élégamment, avec courtoisie, avec cette sœur Augustine et lui dire « Je vous ai vu partir très vite, est-ce que vous avez un problème ?» Parce que si elle avait fait cela, sœur Augustine lui aurait simplement répondu « Mais oui, je me suis subitement souvenu que j'avais laissé quelque chose sur le feu, j'ai peur qu'il soit arrivé une catastrophe, il fallait que je parte au plus vite. Combien mes amis d'église se sont divisés pour des mois et des années ?» Simplement sur cette base-là. Et après on entretient des griefs. On refuse de croire à la sincérité de la personne. Le même Spurgeon décrire d'autres phrases délicieuses à cet égard. Quelques bonnes femmes et aussi des hommes. Merci Spurgeon. Quand il raconte des histoires, ajoute beaucoup de fioritures. Ils font de grands détours et ils intègrent d'innombrables suppositions, suggestions, allusions et rumeurs dans l'histoire jusqu'à ce qu'un œuf de mouche devienne aussi énorme que s'il avait été pondu par une autruche. Je commence tranquillement à enlever les plumes et la couleur et je dis, eh bien, je ne vois pas ce que ce point a à faire dans l'incident ou ce qu'il y a de mal dans cette remarque. Tout ce que je peux voir quand je regarde simplement les faits, c'est telle et telle chose. Et ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Oh, mais si, il y avait plus de sous-entendus. Ne croyez pas cela, chers frères, chères sœurs. S'il doit y avoir quelque injustice, faites en sorte qu'elle soit la plus petite possible. Si vous avez un télescope, regardez par le gros bout de la lorgnette et minimisez l'injustice au lieu de la magnifier, ou mieux encore, ne la regardez pas du tout. L'amour authentique, dit 1 Corinthiens 13, ne comptabilise pas le mal. Ne comptabilise pas. Généralement, nous avons ne soupçonne pas. En fait, c'est ne comptabilise pas. Il n'est pas là, du matin au soir, à traquer pour souligner les erreurs. Sur la base de Luc 17, en disant pour chaque bêtise, il faut qu'il y ait repentance. J'ai sous les yeux l'histoire de ce petit garçon qui marchait le long d'une voie ferrée avec son père. « Regarde, papa, les rails de chemin de fer se rejoignent là-bas. » « Non, mon fils, ils ne se rejoignent jamais, c'est juste une impression que tu as. » Plus tard, à son retour à la maison, le petit garçon rapporte à sa mère que son père a menti. Papa m'a dit que les rails de chemin de fer ne se rencontrent jamais, mais je sais que c'est vrai, je l'ai vu moi-même. Eh oui, mais c'est un petit garçon. Et il serait malheureux que maman lui donne une fessée. Peut-être faut-il simplement qu'elle appuie ce que papa a dit pour que l'enfant comprenne que papa n'a pas menti. Qu'il apprenne à faire confiance à son papa. Mais simplement, il est encore trop petit pour comprendre certaines choses. Ainsi en est-il dans nos relations les uns avec les autres. Nous l'avons dit tout à l'heure, notre maturité, notre connaissance des Écritures, la sensibilité de notre cœur est différente. C'est ça la famille. Et là, je parle bien entendu de l'Église de Jésus-Christ. J'ajoute ici encore une chose. C'est qu'il faut faire une nette distinction au niveau du pardon entre l'Église et le monde. C'est pour le monde que Dieu dit d'abord dans sa parole, aimez vos ennemis. Pardonnez ceux qui vous haïssent. Prenez le contexte de ces textes comme Matthieu 5, 38 à 48, par exemple. Matthieu 5, 38 à 48, pour ne prendre que cet exemple, mais il y en a bien d'autres. Matthieu 5, 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, parce qu'il s'agit de la joue droite, et en fait, c'est un soufflet. Main droite, joue droite. Là, ça, c'est le geste le plus méprisant qui soit, notamment dans l'esprit gréco-romain, le soufflet, comme on disait, n'est-ce pas, la gifle, était le summum de l'offense et du mépris. Et donc il faut garder ce cap-là quand on dit ce texte, n'est-ce pas? Il est question de ne pas riposter à l'affront dans ce texte. Là, dans cette situation, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et le verbe plaider est bien précis, il est question de faire un procès en justice. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force, on pourrait même mettre te réquisitionne, parce que dans les pays occupés, Israël en savait quelque chose, hein, il y avait la réquisition où les militaires obligeaient à un tas de choses comme lors de toutes les guerres. Si quelqu'un donc te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Tout cela est important, mais il y a d'autres textes dans les Écritures qui éclairent ces passages et qui y apportent un certain nombre de nuances nécessaires. Croyez-moi, quand on m'emprunte parfois certaines choses, je ne suis pas de ceux qui donnent systématiquement, parce qu'il y a d'autres enseignements des Écritures. Il y a un principe qui consiste à ne pas se détourner, mais il y a une sagesse spirituelle qui doit savoir que parfois, être du matin au soir en train de laisser la même personne emprunter, c'est lui rendre un mauvais service. Même Jésus, quand lors d'un de ces 5 ou 6 procès iniques qui a précédé sa mort sur la croix, a été subitement giflé, n'est-ce pas, par une des grandes autorités religieuses, bon, il n'a pas riposté avec haine, mais il a dit, mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Dis-moi ce que j'ai mal fait. L'agneau qui allait être immolé dans cette situation estimait absolument nécessaire de montrer que la justice de Dieu avait été bafouée. Donc vous voyez, il y a dans les Écritures un ensemble de textes à considérer et non pas simplement un verset à extraire pour lui faire dire n'importe quoi. Hein, la Bible s'explique par la Bible. Nous n'avons pas reçu que Matthieu 5 à 7, nous avons reçu tout un message avec une infinité de nuances qui ne minimise pas, qui ne sous-évalue pas, mais qui donne cet équilibre, ce doigté et cette colonne vertébrale à la vie du disciple de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, il y a un abus manifeste par rapport au texte de l'Ancien Testament. C'était la tradition des anciens. Mais moi, je vous dis, Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, accompli, mûr, adulte, comme votre Père Céleste est parfait. Dans mes relations, avec ceux qui ne sont pas encore en Christ, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ne connaissent pas les Écritures, qui n'ont pas un cœur nouveau, je ne vais pas exiger la repentance, je ne vais pas demander la repentance. Alors là, je dois faire preuve de l'esprit de pardon le plus absolu qui soit, comme Étienne. Le premier martyr, n'est-ce pas, qui va simplement demander à Dieu d'accorder le pardon, n'est-ce pas? Il va faire preuve de l'esprit de pardon. Pourquoi? Parce que on n'a pas le Saint-Esprit. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, des nuances s'imposent. Dans l'éducation familiale, des nuances s'imposent. Dans notre relation avec Dieu, Dieu va nous montrer, au fur et à mesure, au cas par cas, ces moments où nous allons passer dessus. Et ces moments où, à cause de la gravité de la faute, à cause des risques encourus, à cause des dégâts provoqués, il sera nécessaire, avec beaucoup d'amour, mais un amour ferme, de résister, parce que de toute façon, notre pardon ne serait pas enregistré au ciel. C'est le ciel, c'est Dieu qui dit, je pardonne. Si je pardonne et que ce n'est pas enregistré au ciel, je peux parfois, dans certaines situations, donner à quelqu'un l'illusion qu'il est pardonné là-haut. Et il faut que parfois on sache, dans certaines situations graves, que ça ne peut pas être réglé là-haut. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 18 également. Oh, il y aurait tant de choses, d'autres choses à dire. Peut-être un dernier exemple qui me vient à l'esprit pour nous montrer combien nous devons faire attention dans ce domaine. J'ai déjà donné ici, je le fais dans un de mes livres, cette illustration de trois hommes qui tiennent un bâton en main. Le premier homme lâche son bâton et le bâton tombe à terre. La deuxième personne lâche ce bâton et le bâton monte. La troisième personne lâche le bâton et le bâton se met à flotter dans l'espace. Notre raisonnement immédiat consiste à dire « Seul le premier bâton dans la main du premier homme se conduit de manière normale, obéissant à une loi que nous connaissons tous et qui parfois nous joue de mauvais tours. » Tombe à terre. Donc, il y a quelque chose de très bizarre dans les deux autres comportements. Sauf si nous réalisons que là où le premier homme était dans notre situation, le deuxième était sous l'eau, il lâche son bâton, le bâton monte à la surface, et le troisième était dans un vaisseau de l'espace, il lâche le bâton, il flotte en apesanteur. Et ça, c'est notre problème dans nos relations les uns avec les autres. Si les autres ne réagissent pas selon nos schémas, nous sommes tout de suite tentés de dire « il a tort, il a péché ». C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Allons vérifier dans les Écritures si c'est bien du ressort du péché ou si cela appartient à des domaines qui sont liés parfois à certains aspects de culture, de race, de goût, etc., n'est-ce pas? Où nous sommes différents les uns des autres, où nous évoluons les uns et les autres dans un monde différent. Nous qui voyageons beaucoup dans les pays d'outre-mer, une des grandes règles de notre ministère, c'est dans chaque pays de veiller à connaître tant soit peu la manière de vivre pour éviter de juger trop vite et de commettre des impairs, n'est-ce pas? Mais il en est de même dans nos relations les uns avec les autres. N'appelons pas péché ce qui n'est pas péché. Parfois. parfois les questions d'environnement jouent. L'exemple le plus beau dans les Écritures se situe au moment où le deuxième temple est construit, ses bases sont posées, ses fondements sont posés, on organise du temps donc de Zorobabel et des conducteurs du peuple, on organise une fête, n'est-ce pas, pour cette inauguration, ce démarrage des fondations. Et puis voilà qu'en pleine fête, des participants se mettent à pleurer comme on était capable de pleurer dans ces pays lorsqu'on était chagriné, au moment même où dans la même fête, d'autres sont en train de triompher d'allégresse, de chanter leur joie, d'exploser de bonheur. Et il y avait une sorte de cacophonie dans cette cérémonie avec des bruits de pleurs et des cris de joie qui s'entendaient au loin. Alors les uns pouvaient accuser les autres. Ceux qui pleuraient pouvaient dire « mais quelle légèreté chez ceux qui se réjouissent ». Ceux qui se réjouissaient pouvaient dire « mais quel pessimisme, quelle manière négative de vivre cet événement » chez ceux qui pleurent. Or en réalité, c'était une question de différence de génération. Les plus âgés qui vivaient cette cérémonie avaient vu le premier temple, le temple de Salomon dans toute sa splendeur. Et quand ils voyaient, 50 ans ou 60 ans plus tard, les bases du nouvel édifice, qui leur semblaient tellement ridicules dans leur petitesse à côté de la gloire qu'ils avaient connue, ils pleuraient, parce qu'ils se souvenaient de la gloire du temple de jadis. Les jeunes, qui n'avaient pas connu l'ancien temple, qui n'avait pas ce point de repère dans le passé, ne pouvait que se réjouir, parce que la reconstruction était quelque chose de merveilleux, c'était une nouvelle étape qui commençait, n'est-ce pas? Et il fallait que les uns acceptent de supporter les autres. Il en est ainsi dans nos relations, les uns avec les autres. Simplement quelques mots de conclusion, parce que l'heure passe, le temps passe. Mot de conclusion pour souligner deux fautes courantes et préjudiciables à la santé de nos communautés, parfois aussi de nos vies de famille, qui sont soulignées par cette histoire d'Absalom. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'hier matin, nous avons beaucoup insisté sur la question du temps. 2 ans après le méfait, Absalom commet un crime par personne interposée. Il s'enfuit et 3 ans à l'étranger. Il revient chez lui, mais 2 ans s'écoulent encore. Et finalement, on en arrive à une réconciliation, à une pseudo-réconciliation, à un bricolage de la réconciliation, 5 ans après le crime. 5 ans, nous avons beaucoup insisté. Alors la première leçon est pour dire que, à quelque part, on peut se poser la question, est-ce qu'Absalom a peut-être pensé que le temps qui passe pouvait effacer le crime? Parce que nous sommes tentés de penser de cette manière. Le temps qui passe use la mémoire. Use le mordant du péché, mais n'efface pas la réalité du péché. Et là, parfois, nous nous illusionnons à quelque part, nous nous séduisons nous-mêmes, en disant que puisque on ne ressent plus ce que l'on ressentait il y a 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'on est capable de dormir à nouveau sur ses deux oreilles, alors qu'au début, nos nuits étaient peuplées de cauchemars à cause de ce que nous avions fait. Eh bien, c'est que ça va. C'est qu'à quelque part, le problème est réglé. Nous devons nous souvenir que dans le cœur de Dieu, dans la mémoire de Dieu, les 5 années qui avaient passé n'avaient rien effacé du tout. Le drame, le péché, la culpabilité d'Absalom était exact la même au bout de 5 ans qu'à l'instant même où Absalom avait péché. Dieu ne perd jamais la mémoire. Et tout notre problème est dans le sens que nous disons, que nous donnons au verbe oublier ou ne plus se souvenir. Nous verrons combien c'est important dans le pardon relationnel horizontal. Mais souvenons-nous pour le moment que quand il est dit que Dieu oublie, ça ne veut pas dire ce que nous sous-entendons par oublier. Quand Dieu oublie ou qu'il ne se souvient pas, cela veut dire que Dieu ne tient plus compte d'eux. Il ne prend plus en compte. Plus jamais il ne mentionnera le fait. C'est un fait réglé. Dieu pourrait, dans l'éternité à venir, quand nous serons tous dans sa présence, il pourrait nous rappeler intégralement et dans les moindres détails toutes nos fautes en pensée, en parole et en acte. Mais il a décidé, sur la base du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, et parce que nous avons plaidé coupable, et parce que nous plaidons coupable, il décide de ne plus en faire mention un seul instant. Et ça, c'est extraordinaire. Et de cette compréhension de la mémoire de Dieu dépend notre compréhension de l'oubli dans nos relations avec les autres. Mais nous y reviendrons. Alors souvenons-nous que Dieu n'est jamais frappé d'amnésie. Il n'y a pas un moment où, parce qu'on a dit pardon, il y a une sorte de clic, comme si Dieu avait pris un médicament qui efface tout, n'est-ce pas ? Amnésie. Non, Dieu n'est pas amnésique, il ne serait pas parfait. Mais c'est cette faveur imméritée, extraordinaire de Dieu, qui fait que, sur la base du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, parce que humblement, simplement, de tout notre cœur, nous plaidons coupables, délivrant, je ne tiens plus compte. Je ne te le rementionnerai plus jamais. Je ne vais jamais te servir ce plat réchauffé. Mes amis, ça c'est formidable avec Dieu. Moi je suis heureux qu'au moins Dieu ne me rappelle plus mon péché passé. C'est réglé. Alors quand le diable me sert ce plat, croyez-moi, je le renvoie, il a été vaincu. Parce que lui, il a l'art, hein, de vous ramener sur la sellette des fautes qui ont été réglées. Moi, je pense à Martin Luther qui a fait une nuit un horrible cauchemar dans lequel Satan se dressait pour lui rappeler toutes ses fautes commises. Et il en ajoutait encore. Jusqu'à ce que, à un moment donné, Satan, dans son cauchemar, s'enfuit et qu'apparaisse de manière extrêmement lumineuse ce verset de 1 Jean 1, n'est-ce pas, le sang de Jésus, si nous confessons nos péchés, n'est-ce pas, et il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie loin de toute iniquité. Et il était tellement bouleversé par le fait que Satan ait été chassé, qu'il s'est réveillé, il était assis dans son lit et il vivait un de ces rires de bonheur absolument extraordinaire. Mais si nous n'avons pas réglé, Dieu se souvient. Dieu se souvient. Je pense à ce qui s'est passé en mai-juin 1983. Un officier nazi coupable de crimes de guerre, plus exactement de la tuerie d'Ouradour-sur-Glane en Haute-Vienne, en France, le 10 juin 1944, 643 personnes ont été massacrées, dont 500 femmes et enfants, qui périrent dans l'église volontairement incendiée. Drame horrible. Et je me souviens du reportage donné le 26 mai 83, lorsqu'il a été jugé, cet homme, en Allemagne de l'Est. Et j'avais noté immédiatement une des phrases qu'il a dites, n'est-ce pas, devant le juge. « Je n'aurais jamais pensé qu'on me demanderait des comptes après tant d'années. » Mes amis, c'est un message pour nous aussi. Dieu nous aime, et Dieu est saint. Dieu est saint. Donc ne croyons pas à la magie du temps qui efface. Venons à la croix. Réglons ce qui est à régler. Et là où c'est difficile, c'est problématique, où c'est compliqué, nous avons des aînés dans la foi, vers lesquels nous pouvons aller pour nous ouvrir, pour partager, pour voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, pour chercher la face de Dieu, comprendre sa volonté. Et c'est important. à la fois pour le pardon juridique quand quelqu'un ne connaît pas encore Jésus-Christ, et puis aussi pour notre pardon paternel. C'est important de régler ce que le Seigneur fait monter dans notre cœur et que nous avions tendance à laisser là, bien enfoui, comme si ça avait déjà été réglé. Et enfin, pour terminer, je le redis parce que c'est un des grands enseignements de Samuel 13 et 14. Nous confondons souvent pardon et réconciliation. Nous sommes très préoccupés par le caractère affectif et relationnel des conflits. Si deux personnes en conflit peuvent se côtoyer sans problème, si elles peuvent cultiver des relations comme si rien ne s'était passé, alléluia. Et pourtant c'est faux. Et il y a trop de relations apparemment saines, mais fausses dans l'Église. Tout simplement parce que on est pour une politique de détente. On veut mettre de l'huile dans les rouages. On préfère étouffer les tensions. On préfère faire le dos rond. Si je peux continuer à le fréquenter sans qu'on aille au fond du problème, allons comme ça. C'est pas juste. Et je ne m'étonne pas de ce que dans nos vies d'église, de temps en temps, il y ait des éruptions volcaniques, conflictuelles, subites, alors que tout était calme. Subitement, quelqu'un manifeste une conduite curieusement désordonnée. Comme si un cadavre avait été jeté à l'eau, avait disparu pendant un certain temps, et puis au moment où on ne s'y attend pas, tiens, ça y est, il réapparaît à 10 kilomètres de là, à la surface. Mes amis, quand nous ne réglons pas les conflits, quand nous n'apprenons pas à dire pardon, à nous repentir, à plaider des coupables, tout comme quand nous n'apprenons pas à pardonner, nous semons sur la route de notre avenir personnel et de notre avenir d'église des mines antipersonnelles. Vous savez ce que c'est, hein? Vous savez que chaque jour dans le monde, des milliers et des milliers de personnes meurent, alors que dans certains pays comme le Cambodge et d'autres, la guerre est finie depuis des années. Mais on a semé tellement de mines antipersonnelles que ce soir, il y aura encore des dizaines et des dizaines de personnes en plus dans les hôpitaux, dans les morgues et sous le sol, parce que des mines antipersonnelles continuent à exploser. Chaque fois que je refuse de régler un problème en faisant plutôt le dos rond, en faisant comme si rien n'avait eu lieu, je me prépare des explosions de mines antipersonnelles pour l'avenir de ma vie et de mon église. Parce qu'il y a une loi, mes bien-aimés, incontournable tant que nous sommes sur cette terre, c'est la loi des semences et des moissons. Ce que je sème, je le récolte. Et vous savez que la récolte, ça intervient parfois assez longtemps après la semence. Donc c'est un message extrêmement solennel. Vous comprenez, je l'espère, pourquoi c'est dans cette première partie de notre série d'études que nous nous penchons longuement sur cette question. Donc souvenons-nous, hein, pas de pardon sans repentance, pas de réconciliation sans pardon. Tout se tient en y mettant toutes les nuances que nous avons soulignées durant cette matinée et qui nous donne une indication de pointe. C'est de la qualité de ma relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ que vont dépendre beaucoup de choses dans mes relations avec lui, dans mes relations avec le monde, dans mes relations avec l'Église, dans mes relations avec ma famille. Tout est là, au cœur, mon intimité avec lui sur la base de sa parole. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as confrontés avec un message qui a des aspects difficiles à entendre. Mais nous te bénissons parce que tu nous aimes assez pour le partager avec nous. Nous n'avons pas eu affaire en cette matinée au ricanement du diable, au découragement de l'accusateur, à sa perfidie, à ses mensonges. Nous avons été en présence du Dieu d'amour, qui veut le meilleur pour ses enfants. Seigneur, merci pour le pardon juridique accordé à la croix, pour ce fait que ma dette est totalement réglée, pour ce fait que je suis un homme totalement libéré, un prisonnier arraché aux ténèbres, pour ce fait ô combien glorieux de ma réconciliation avec toi, Père, à cause du sacrifice de ton Fils. Merci pour ce glorieux pardon. Merci aussi, Seigneur, pour le pardon paternel dans notre relation avec toi, d'heure en heure, de jour en jour. Cette possibilité de continuellement pouvoir venir le cœur droit, dans la lumière, pour plaider coupable, pour régler avec toi, mais aussi pour aller vers nos bien-aimés, vers nos frères et sœurs, vers notre conjoint, vers nos enfants, pour régler les conflits. Merci parce que tu veux nous en donner la force aux uns et aux autres. Tu veux le meilleur. Continue dans ta grâce à œuvrer en nous, en moi, parmi nous, dans mon cœur, pour que je grandisse dans cet esprit-là. Nous avons soif de toi, soif de t'imiter, soif de te ressembler, soif de vivre selon ta parole. Et nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour toutes tes grâces parfaitement suffisantes, pour ta force toute puissante, pour l'intercession bienveillante de ton Fils bien-aimé, pour ce défenseur qui présente son sang versé à la croix continuellement pour nous. Merci pour la grâce de l'Église, des frères et sœurs, de ta parole. Nous comptons tes grâces, combien tu es merveilleux. Nous t'en louons et te bénissons de tout notre cœur en Jésus-Christ. Amen.